En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Mesdames et messieurs, bonjour. L'émission En séance retransmet aujourd'hui la communication du compositeur Serge Nigue, membre de l'Académie des Beaux-Arts, donnée le mercredi 26 avril 2006. À la tribune ce jour-là, Arnaud Dautrive, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, et François-Bernard Michel, le président de l'Académie, ont accueilli Serge Nigue, venu s'exprimer sur Thomas Mann et le docteur Faustus, le diable et la musique. Je vous propose de les rejoindre sans plus tarder en grande salle des séances.
Vous allez nous parler aujourd'hui du docteur Faustus, l'œuvre de Thomas Mann. Cette immense œuvre de près de 1000 pages retrace la destinée tragique d'un musicien, Adrien Leverkühn, double imaginaire de Schoenberg et de Nietzsche, dont l'œuvre culmine et s'achève au moment où l'Allemagne bascule dans la barbarie du nazisme. Thomas Mann déploie dans cette œuvre étonnante une extraordinaire profondeur d'analyse sur la musique et la nature profondément ambiguë de cette dernière. Je ne m'attarderai pas sur les points que vous allez développer. Laissez-moi seulement rappeler quelques mots de votre parcours à l'attention de ceux qui sont venus vous écouter cet après-midi. Vous êtes entré en 1941 à 17 ans au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, dans la classe d'un confrère décédé, Olivier Messiaen, puis dans celle de contrepoint et fugue de Simone Plaît-Caussade, dont vous sortez en 1945. Dès 1943, vos premiers ouvrages sont exécutés en concert, la première sonate pour piano et votre première œuvre symphonique, Timour, qui crée en 1943 Roger Desormières à la tête de l'Orchestre national. À l'instar de tout un groupe de jeunes compositeurs de ce temps, vous êtes profondément marqué par votre rencontre avec René Leibovitz, disciple de Schoenberg, qui vous initie à la dodécaphonie. Vous écrivez en 1946 ce qui peut être considéré comme la première œuvre rigoureusement dodécaphonique conçue en France, les variations pour piano et 10 instruments. Vous n'éprouvez qu'un goût modéré pour les recherches purement abstraites et formelles, et vous vous éloignez dès 1950 de la technique sérielle. Certaines de vos œuvres peuvent être considérées comme une réaction vive contre les règles trop étroites et le catéchisme dominant. Le premier concerto pour piano et orchestre en 1954, le premier concerto pour violon et orchestre en 1960, le concerto pour flûte et cordes de 1960. Au cours de ces années-là s'impose chez vous une nouvelle période mais dans laquelle vous dépassez tout systématisme. C'est cette période d'équilibre où le souci de la beauté sonore, de l'expression, se voit lié à l'exigence d'une langue musicale sans complaisance, où se succède la très belle Jérôme Bosch Symphonie, Histoire d'œuf, d'après Blaise Sandrard en 61, commande de la radio pour le premier concert public des percussions de Strasbourg, Le chant du dépossédé en 1964, d'après des notes de Stéphane Mallarmé, Visage d'Axel, inspiré de l'œuvre de Villiers de l'Isle-Adam, qui a été renommée récemment, Fulgure, d'après Elio Gabal, ou L'anarchiste couronné d'Antonin Artaud. Parallèlement à votre travail, vous consacrez au développement de la vie musicale française et à l'enseignement. En 1956, vous avez été nommé au comité de la musique de la radiodiffusion. En 1967, à la direction de la musique, vous êtes chargé par Marcel Landowski de l'inspection des théâtres lyriques français, poste que vous avez occupé jusqu'en 1982, et en 1978, vous succédez en tant que professeur de composition à votre maître Olivier Messiaen au CNS. En 1982, vous avez confié la classe d'instrumentation et d'orchestration nouvellement créée. En 1989, vous avez été élu dans notre académie que vous avez présidée en 1995, tandis que la même année, celle du bicentenaire, vous avez présidé l'Institut de France. Mais je vais vous donner la parole. Après avoir permis une réflexion un petit peu plus personnelle, peut-être, cher Serge Nigue, c'est que peut-être telle ou telle cicatrice dans votre vie, dans votre parcours de créateur, a imprimé cette finesse de pensée, cette élégance de cœur que nous apprécions tous chez vous. Merci.
Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers confrères et consoeurs, Mesdames et Messieurs, rédigé entre 1943 et 1947, l'un des plus grands livres de la littérature allemande, de la littérature tout court, le Docteur Faustus de Thomas Mann, est un roman encyclopédique qui traite de philosophie, de théologie, d'histoire. Mais il traite surtout de composition musicale, puisque c'est la vie d'un compositeur, Adrian Leverkühn, qui y est relatée depuis sa naissance supposée en 1885 jusqu'à sa disparition en 1940. Il ne saurait être question ici, en un si court laps de temps, de dissiper toutes les brumes d'une œuvre foisonnante et, pourrait-on dire, sans limite clairement définie. Tout au plus pourrait-on faire ressortir quelques idées forces d'ordre musical, quelques aspects de l'univers intellectuel d'un personnage imaginaire en perpétuelle interrogation, en incessante tension. Et ceci, mêlé d'une certaine indifférence pour le monde extérieur, engagé vers un cataclysme universel dont le propre pays du musicien était le responsable. L'existence de notre héros s'arrête en 1940. Il ne connaîtra donc pas l'embrasement du Valhalla. Plus de la moitié de sa vie se déroule pendant l'apogée de l'Empire allemand, sous Guillaume II. Mais l'engrenage fatal est en place, faisant s'enchaîner inexorablement la guerre de 14-18, la défaite, la crise politique, l'effondrement de l'économie, la République de Weimar, les prodromes de l'hitlérisme et son triomphe. Les événements qui se produisent au cours de toutes ces années résonnent en lui comme un écho affaibli. Les préoccupations et le caractère d'Adrian ne sont que peu ouverts vers l'extérieur et les éclats du monde ne semblent pas sensiblement l'atteindre. Le personnage est plutôt froid pour tout ce qui ne concerne pas son art. Tourné vers son univers intérieur, il est tout entier voué à la recherche de sa propre perfection, convaincu de ne pouvoir atteindre au génie que par une intervention démoniaque. Obsédé par le prix à payer pour recevoir l'illumination suprême, ses ivresses, ses paroxysmes. Le roman est tellement fouillé, approfondi et fourmi de tant d'idées, de tant de détails relevant d'une haute connaissance de la science musicale, que le lecteur en sort fasciné par une telle qualité de réflexion et de pénétration. Un intérêt supplémentaire s'ajoute au récit de la vie de Leverkühn. Thomas Mann emprunte à Arnold Schoenberg l'invention de la technique dodécaphonique, autrement dit la technique des 12 sons ou système sériel, et l'attribue à son personnage central. Rappelons toutefois que cette connaissance d'une technique un peu abstraite, Thomas Mann la doit au philosophe et musicologue allemand Theodor Adorno, son compagnon d'exil pendant la dernière guerre en Californie. Adorno fut à Vienne l'élève d'Albanberg. Le Docteur Faustus est un ouvrage imposant qui ne se lit point facilement, touffu, parfois fastidieux, terme qu'utilisera André Gide à propos d'un autre roman de Mann, mais fastueux par la pensée, la hauteur de vue, l'intime imprégnation de l'art dont il explore les arcanes en savant musicien. Un autre grand roman s'impose à l'esprit à propos de Faustus, c'est bien sûr de Romain Rolland, le Jean-Christophe, dont la vie s'inscrit dans la génération précédant celle de Leverkühn. Il s'agit, dans les deux cas, de la biographie inventée de deux compositeurs allemands, l'un restant attaché à son pays natal malgré ses menaçantes perversions, l'autre émigrant à Paris pour y découvrir la foire sur la place. L'on ne peut qu'éprouver de l'admiration pour l'œuvre de l'écrivain français. Il a entretenu l'amour de la musique chez plusieurs générations de jeunes lecteurs. Il fut un temps où des jeunes gens apprentis compositeurs rêvèrent un jour d'être eux-mêmes, Jean-Christophe. Jean-Christophe est un livre pétri de sympathie pour l'humanité, empli de ce sentiment de générosité qui irrigue toute l'œuvre de l'auteur de L'âme enchantée, de Colabrugnon et du militant pacifiste d'au-dessus de la mêlée. Mais, à la différence de Faustus, l'auteur fait peut-être la part trop belle à l'étude sociologique. Il est surtout un moraliste à qui rien de ce qui est humain ne saurait être étranger. Peut-être cette tendance nuit-elle à l'approfondissement des problèmes propres à la composition musicale. Ceux-ci semblent très souvent, trop souvent, effleurés et nous laissent parfois sur notre faim. Toute l'enfance d'Adrian Lovercune est habitée par la quête de la connaissance de la musique. Il ne sait rien encore, mais il est curieux de tout. Et sur le clavier, il expérimente ce que le hasard accorde à ses doigts malhabiles, aux errements de ses mains. Il accepte tout ce que la réflexion peut suggérer de solution à sa recherche fiévreuse. Il est d'une intelligence et d'un caractère exceptionnels. Au collège, il est mauvais élève, ce qui ne l'empêche pas d'être toujours le premier de sa classe. En dehors de l'école, il aime faire de l'algèbre et se joue de difficiles problèmes de mathématiques. Son ami d'enfance, Serenus Zeitblom, son historiographe en quelque sorte, et qui le suit toute sa vie durant, raconte sa familiarisation autodidacte et secrète avec le clavier, la science des accords, le cadre des tonalités, le cycle des quintes, et aussi le prodige que, sans connaissance des notes, sans doigté, il utilise ses trouvailles harmoniques pour toutes sortes d'exercices de modulation et pour la construction de figures mélodiques. À peine Adrian connut-il ses notes, poursuit Zeitblom, que déjà il s'essayait à des expériences d'accords sur le papier. Sa manie à cette époque est d'imaginer des problèmes musicaux et de les résoudre comme des problèmes d'échecs pouvait inspirer de l'inquiétude, car il risquait fort de prendre ses inventions et cette résolution de difficultés techniques pour l'art de la vraie composition. Il passait des heures à relier dans un espace aussi réduit que possible des accords qui, réunis, contenaient tous les demi-tons de l'échelle chromatique. Ce que l'école schoenbergienne devait appeler plus tard le total chromatique, Adrian l'avait entrevu et expérimenté. Il imaginait la synthèse des lignes mélodiques horizontales et de l'harmonique qui en résultait. Il valorisait nettement le contrepoint par rapport à l'harmonie. « À mon sens, disait-il, on ne devrait jamais voir dans un enchaînement d'accords que le résultat d'un mouvement de voix. Honorer les voix, mais n'honorer l'accord que sous aucun prétexte. Au contraire, le mépriser comme subjectif et arbitraire aussi longtemps qu'il ne peut se justifier par la marche des voix. » On touche du doigt ici l'une des raisons de l'attitude de la vieille tradition germanique, malveillante, hostile à l'égard de l'école française qui, elle, accorde plus d'importance à l'accord en soi, à la beauté des enchaînements harmoniques rares et voluptueux, qu'à la polyphonie proprement dite. On connaît l'anecdote qui évoque Brahms se refusant à recevoir Henri Bucer, premier Grand Prix de Rome, retour de la Villa Médicis. Celui-ci se présenta fièrement devant le valet de chambre de Brahms. « Monsieur Henri Bucer, compositeur français, se vit accueillir par un hurlement. « Il n'y a pas de compositeur français !» clama l'autre cœur du requiem allemand. Adrian fait un jour la rencontre d'un jeune professeur qui organise des concerts dominicaux et des conférences dans sa petite ville. Adrian devient vite son élève. Ce professeur, nommé Wendell Kretschmar, lui ouvre intelligemment les portes de la connaissance musicale, moins à l'aide des traités spécialisés que par l'étude des grandes œuvres et des leçons qu'elles recèlent en elles. La pratique des disciplines de base, surtout le contrepoint, lui assure une technique qui lui permettra plus tard de réaliser les possibilités de création dont il se sent porteur. Déjà avancé dans la réalisation de son œuvre, il aborde avec Serenus Zeitblom le problème qui semble lui tenir le plus à cœur, le problème de l'écriture libre en opposition avec l'écriture rigoureuse. L'écriture libre, dit-il, est celle qui ne considère pas que tout le tissu musical doive dériver d'une seule figure, d'un seul noyau, d'un seul groupe de notes, d'un seul cantus firmus, comme la fugue sévère, ajouterons-nous, dont l'essentiel de la substance doit être tiré du sujet, le thème, et de son fidèle compagnon, le contre-sujet. De son côté, l'écriture polyphonique rigoureuse, pratiquée jusqu'au XVIe siècle inclus, implique l'intégration de toutes les dimensions musicales en une organisation parfaite dont le matériau issu d'une figure utilise les procédés imitatifs canon, mouvement contraire, des rétrogrades, straight, ligne renversable, augmentation des valeurs rythmiques ou leur diminution. Bach usera encore abondamment de ces procédés dans des œuvres comme l'art de la fugue ou l'offrande musicale. « Sais-tu, demanda un jour Leverkühn à son ami, à quel moment j'ai été le plus près d'une écriture rigoureuse ? Une fois, dans une mélodie du cycle de Brentano, O Lieb Mädel. Tout le morceau procède d'une figure fondamentale, une série d'intervalles variables, à l'infini, sorte de mots-clés, dont les signes se retrouvent partout dans le lead et aspirent à le déterminer complètement. » Mais le champ des notes est trop restreint, on devrait pouvoir aller plus loin, et avec les 12 demi-tons former des mots plus grands, des mots de 12 lettres, des formations de série, desquelles dériverait strictement la phrase, le morceau entier, voire toute une œuvre. Chaque note de l'ensemble de la composition, mélodiquement et harmoniquement, devrait pouvoir trouver sa filiation avec cette série préétablie. Aucune des notes n'aurait le droit de reparaître avant que toutes les autres n'aient également fait leur apparition. Aucune n'aurait le droit de se présenter qui ne remplit sa fonction de motif dans la construction générale. Il n'y aurait plus une note libre. Voilà ce que j'appellerais, conclut Adriaan, une écriture rigoureuse. Aux réticences de son ami prévoyant un appauvrissement et une stagnation de la musique, Adriaan fit entrevoir tous les moyens de développement possibles si l'on y englobait les techniques de la variation, l'usage des 48 formes de la série initiale, si l'on compte ces formes droites, renversées et récurrentes. Il semble du reste étrange que les raisons de cet éventuel appauvrissement, souligné par Serenus, n'aient pas été davantage mises en lumière dans le roman. Le dogme stipulant que toutes les notes de la série étant égales entre elles, donc sans hiérarchie, entraînait l'élimination de tout ce qui avait donné à plusieurs siècles de musique leur extraordinaire puissance expressive. Retard, appoggiature, notes pédales, accords et notes de passage, consonances et dissonances, notes étrangères, modulations. On restait dans l'attente de savoir ce qui pourrait bien se substituer à tout ce qui avait, pendant des siècles, contribué à enrichir le langage a eu donné tant de relief, tant de dynamisme, de variété et de couleur. Quand Leverkühn parvient à l'entière maîtrise de cette technique, on peut penser que l'esprit de l'ancienne tradition du contrepoint rigoureux était revenu habiter la conscience du compositeur. Ce n'est pas pour rien que dans les grandes variations pour orchestre, l'opus 31 de Schoenberg, qu'aurait pu écrire Leverkühn, aient été intégrés dans le tissu dodécaphonique les quatre notes-lettres du nom de Bach. B égale si bémol, A égale la, C égale ut, H égale si naturel. B, A, C, H, si bémol, la, do, si naturel. Comme une sorte d'hommage rendu à la tradition séculaire hautement revendiquée par Schoenberg. Dans les multiples entretiens, contre Adriaan et Zeitblom, de nombreux sujets sont abordés. Ainsi, Adriaan assure que la musique s'impose toujours une pénitence spirituelle pour expier sa sensualité. Il donne ainsi une explication insolite concernant la succession historique des techniques et des styles. Le moralisme de la forme, dit-il, sa rigueur sont destinés à servir d'excuse aux enivrements de la réalité sonore. La musique oscille entre la débauche et la règle conventuelle. La règle, toute la règle, produit un effet réfrigérant et la musique a en elle tant de chaleur d'étable et de chaleur de vache qu'elle peut aussi avoir besoin à certains carrefours de règles purificatrices et un peu glacées. Apprécions la saveur rustique de l'évocation par Adriaan de la chaleur de l'étable, de la chaleur de la vache. N'en rejetons pas la trivialité, la rudesse, mais tâchons d'en saisir le sens. Il y a des moments dans la trajectoire historique de la musique où celle-ci, grasse comme une nourrissante pâture, expressive à l'excès, abonde en démonstrations sentimentales. Elle peut susciter une euphorie qui s'apparente à ce bonheur sans mélange qu'éprouvait le pauvre paysan d'antan, se blottissant la nuit tout contre ses bestiaux et trouvant dans l'étable chaleur rassurante, bien-être et sécurité. À l'abondance abusive, au gonflement sans retenue de l'expression lyrique, ne peuvent manquer de succéder des actes de contrition, de pénitence. Ceux-ci prendront des aspects différents selon la nature des traditions de chaque pays, mais aussi à l'extrême complexité de l'écriture ne peut manquer de succéder à certains moments ce qui passe pour une simplification salutaire. Ainsi, quand les si sévères polyphonies franco-flamandes et italiennes en arrivèrent à la fin de la Renaissance à de trop savantes superpositions contrapuntiques, à des combinaisons d'écriture dont la complication et la virtuosité défiaient l'imagination, il fallut bien trouver une solution pour sortir de l'impasse. On ne pouvait aller plus loin dans cette direction. En art, la simplification est souvent synonyme d'enrichissement, de découverte de voix et de valeurs nouvelles. Après Palestrina, la musique se détourna des splendides architectures polyphoniques entièrement vouées à la gloire de Dieu. Elle découvrit la puissance du beau chant et créa son vecteur idéal, l'opéra. À l'aube du XVIIe siècle, ce fut l'une des premières manifestations du premier style baroque qu'illustra de grande manière Claudio Monteverdi. À l'exaltation de la gloire de Dieu succéda dans l'univers de la musique l'avènement des passions humaines dans toute leur richesse et variété sans limite. Ce fut le culte de la voix qui ouvrit un monde nouveau à la musique, malgré tous les excès d'une technique vocale transcendante et les égarements de la pure virtuosité. Ainsi, sous une apparence de simplification, ce fut le monde intérieur de l'homme qui commença à livrer ses richesses presque inconnues jusqu'alors. Quand, à l'époque du post-romantisme allemand et de ses avatars successifs, apparurent par excès de richesse les boursouflures, l'emphase, les développements hypertrophiés, les conclusions souvent interminables, les conséquences ne manquèrent pas de se manifester. Nous verrons tout à l'heure comment, entre les deux guerres mondiales, réagit la tradition germanique. La musique française, à l'époque de l'impressionnisme debussiste, échappa au schéma levercunien, car elle n'était pas engagée dans certains débordements de sa voisine d'Outre-Rhin. Elle réagit à la domination wagnérienne suivant son goût séculaire, ses penchants naturels, son génie particulier. Ce génie n'était pas celui de la haie et de la discipline, ni celui de la règle étroite d'une école. C'était celle du plaisir de la musique, du désir de respirer librement, d'éprouver le sentiment de la nature. Mais avant tout, elle joua avec son goût de la volupté sonore. Elle se garda toutefois des trop troublantes séductions de l'hédonisme tentateur. La forme en était parfois masquée, mais elle était toujours solidement construite, malgré une apparence de grande liberté. Elle séduisit avec la sensualité du faune mallarméen et debussiste, pénétrée du désir irrépressible de perpétuer l'espèce. Elle fascina avec les jaillissements, les soubresauts, les convulsions et la luxuriance de la mer, avec les élans apolliniens de Daphnis. Cette musique nous fut donnée sans aucune volonté de rien vouloir démontrer, sans esprit de système, sans volonté dogmatique. À l'envoûtement wagnérien qui, à juste titre, subjugua toute l'Europe avec les splendeurs de la Valkyrie, de Tristan, de Parsifal, la musique française, à partir de 1890, répondit par une nouvelle manière de concevoir le discours, plus essentielle, plus discrète, non diluée. Elle se situa à l'opposé de toute ostentation, de toute outrance, dans une expression toujours contrôlée et d'un extrême raffinement. Elle suggéra plus qu'elle n'imposa. Ce qui n'empêcha pas le groupe des six, avec Honegger, Millau et Poulenc, de renvoyer dos à dos wagnérisme et debussiste au nom d'une simplicité prônée par Cocteau dans Le Coq et l'Arlequin, bible du groupe des six. Le schéma levercunien, en revanche, s'applique parfaitement à l'univers germanique. La pénitence spirituelle, le moralisme de la forme, la règle réfrigérante, la rigueur extrême des procédés de composition se concentrèrent au sein de l'école de Vienne fondée par Arnold Schoenberg et à laquelle s'intégrèrent Alban Berg et Anton Webern, ses disciples. Après une période de tâtonnement pendant laquelle l'atonalisme, l'apostrophe, se cherchait une règle logique, une cohérence, mais qui ne fut rien d'autre qu'un refus obsessionnel de tout ce qui pouvait rappeler les procédés de la tonalité, Schoenberg conçut son système. Celui-ci fut basé sur les rapports intervalliques d'une série choisie parmi les 12 sons de la gamme chromatique et n'ayant de rapport qu'entre eux. Ce fut l'ordre de succession des 12 notes de la gamme, ordre choisi par le compositeur, qui devint la loi suprême. La règle réfrigérante, aurait dit Levercune. À partir de la suite pour piano, opus 25, qui date de 1923, Schoenberg appliqua sa technique avec la révérence du prêtre pour son sacerdoce. Alban Berg jeta des regards mélancoliques et nostalgiques vers le passé et prit des libertés. Mais la manifestation la plus extrême de la Trinité viennoise, l'œuvre d'Anton Webern, nous offre en revanche la technique la plus radicale qui se puisse imaginer en ce temps. Elle mettait en cause la conception de la polyphonie, du rythme, de la thématique, la notion de phrase, de développement, les formes héritées, les structures éprouvées, les notions de contraste, de temps, d'unité formelle. Elle procéda à la synthèse de l'horizontal et du vertical, de l'harmonie et du contrepoint. Elle mettait en déroute le consensus tacite admis par toutes les écoles. Il serait difficile de trouver dans l'histoire de la musique un style plus nu, plus austère, oserait-on dire plus décharné. Les enthousiastes déclarent que c'est là pur cristal, quelque substance idéale qui évoquerait la limpidité du diamant. Ils admirent cette ascèse, cette musique proche du silence, au discours si concis, au souffle si bref. Rappelons que certaines œuvres de Webern ne se comptent pas en minutes, mais en secondes. Pour René Leibovitz, qui en fut le thuriféraire inconditionnel, chaque soupir est un roman. Cependant, poursuit-il, exprimer un roman par un seul geste, un bonheur par une seule respiration, une telle concentration ne se trouve que là où tout sentimentalisme est absent dans les mêmes proportions. Les détracteurs, pour leur part, estiment que l'oxygène y est bien raréfié et n'y voient qu'un art émacié, dévitalisé, sans couleur, un art lunaire. Ils y voient le refus de toute affectivité, de toute émotion, vertus sans lesquelles il semblerait bien que l'art resterait terre infertile, espace stérile. Un jansénisme intégriste succédait à toutes les formes de débauche et de passion sonore. La théorie de Levercune trouvait là une explication extrême. Mais revenons à notre musicien aux prises avec celui dont il attendait des instants transcendants. Puisque le nom du diable figure dans le titre de cette communication, il faut bien en venir à celui qui tient une si grande place dans le roman de Thomas Mann, y fait preuve d'une si rare sagacité musicale et de si brillante qualité d'analyste. Le chapitre central du livre est consacré à une fascinante conversation entre un être bizarre et notre héros. Celui-ci ressent un froid glacial qui lui vient de quelqu'un assis dans la pénombre. L'auteur trace son portrait. Un béret de sport tiré sur l'oreille, des cheveux roux, comme ses cils cernant des yeux rougis. Un visage blafard, une chemise de tricot à carrés en diagonale, une veste à carreaux aux manches trop courtes, des mains et des doigts grossiers, une culotte indécemment collante et des chaussures jaunes éculées. Quelque chose comme un minable marlou, un petit proxénète puant. « Je viens pour régler l'affaire !» susurre ce louche personnage. « Ne pourriez-vous pas arrêter ce courant d'air ?» demande le vercu en frissonnant. À l'évocation d'une affaire à régler, d'un pacte à conclure, au froid hyperboréen qui émanait de l'étrange visiteur, on pouvait imaginer quel était ce clown, ce pitre, cet Auguste. Il avait sûrement quelque chose à voir avec le royaume maudit d'où il s'était évadé un temps. Ce royaume n'était autre que le sien, celui de Satan, séjour éternel de la perduta gente, la race perdue. Dans cette immensité de glace où il était d'ordinaire plongé jusqu'à mi-corps, il voisinait avec les félons, traîtres à leurs bienfaiteurs, les Judas Iscariotes, les Brutus et les Cassius. Dante décrit ce lieu de cauchemar dans le dernier chant de l'enfer qui a inspiré l'une des plus belles gravures de Gustave Doré, illustrant la divine comédie. Là-bas où les ombres étaient toutes recouvertes de glace et transparaissaient comme fêtus de paille, l'empereur du douloureux royaume surgissait hors de la glace du milieu de sa poitrine. Qu'on ne s'étonne donc pas du froid cinglant qui attentait à l'intégrité thermique d'Adriane. Au début de la saisissante conversation pleine d'âpreté et de violence qui oppose le musicien au diable, point culminant du roman, quelques considérations liminaires rappellent le premier pacte conclu 4 années auparavant avec Satan, la possession de l'étincelant génie créateur en échange de la dégradation du corps, en l'occurrence une contamination vénérienne contractée volontairement dans une maison close avec une prostituée nommée Esmeralda. On pense naturellement à Friedrich Nietzsche qui en fit l'amère expérience payée par une cruelle maladie. Pour Adriane Leverkühn, cette morbide épreuve n'ayant pas eu les résultats escomptés, conduisit le diable à revenir à la charge, assurant qu'un nouveau pacte était devenu nécessaire. « Ah donc, nous avons diligemment agencé un traquenard pour que tu te jettes dans nos bras, je veux dire dans ceux de mes infiniment petits, Esmeralda, pour te faire acquérir l'illumination du cerveau que réclamait si désespérément ton corps, ton âme et ton intellect. Nous avons conclu un pacte et une affaire. Tu l'as sigillé de ton sang, t'es engagé envers nous et tu as reçu notre baptême. Ma présente visite a pour seul objet la confirmation. Tu as obtenu de nous une période de génie, un temps fructueux, 24 ans. Une fois achevé et écoulé, tu seras emporté. L'amour t'est interdit parce qu'il réchauffe. Ta vie devra être frigide. Voilà pourquoi il ne t'est pas permis d'aimer un être humain. L'illumination laissera intacte jusqu'à la fin tes forces intellectuelles. Même elle les stimulera par périodes jusqu'à la transe clairvoyante. Crois-tu un génie qui n'ait rien de commun avec les enfers ? L'artiste est frère du démon et du criminel. Et il parle de l'inspiration musicale, les deux types d'inspiration. L'une qu'il semble mépriser parce qu'elle provient de Dieu, et la sienne propre qu'il place très au-dessus. l'une rationnelle car elle passe par le libre arbitre, l'autre irrationnelle car elle est le produit d'une illumination incontrôlée. Qui sait encore aujourd'hui, dit Satan, dans une envolée enflammée, ce qu'est l'inspiration, la vraie, la vieille inspiration primordiale, l'exaltation à l'état absolument pur de toute critique, de toute réflexion paralysante, de tout contrôle mortel de la raison, la transe sacrée. Ainsi, sommes-nous appelés à ne point confondre cette inspiration fabuleuse avec celle qui nous est familière et qui parcourt parfois une œuvre entière, ce long souffle divin qui semble ne jamais devoir faiblir, comme dans un adagio de Jean-Sébastien Bach, parachevé par le travail, la technique, le talent ou le génie. En revanche, dit le diable, accepte donc cette idée subite, l'affaire de 3 ou 4 mesures, pas davantage. Tout le reste est élaboration, travail de rond de cuir, n'est-ce pas ? Ajoute-t-il avec une inconvenante irrévérence. Mais nous savons que le diable est un peu voyou. Prenons les cahiers d'ébauche de Beethoven, dit-il. Aucune conception thématique demeure telle que Dieu l'a donnée. Il la transforme et ajoute en marge meilleur. Dans ce meilleur, nullement enthousiaste, s'exprime une mince confiance en l'inspiration de Dieu, un mince respect à son égard. En revanche, une inspiration vraiment ineffable qui ne laisse aucun choix, aucune alternative d'amélioration ou d'amendement, où tout est accueilli comme une bienheureuse dictée, où les frissons sublimes de l'être visité vous parcourent de la tête aux oreilles, où s'échappe des yeux un torrent de larmes éperdues de bonheur, cette inspiration n'est pas possible avec Dieu, car celui-ci laisse trop de latitude à la raison. Elle n'est possible qu'avec le diable, le vrai seigneur de l'enthousiasme. La part du diable est éclatante, irréflexion. La part de Dieu est liée au plus grand don que celui-ci accorda naguère aux hommes, le plus grand, mais aussi le plus risqué, le plus dangereux, parfois le plus fatal, le libre arbitre. Dans notre pacifique domaine, le libre arbitre invite le compositeur, le peintre, le sculpteur, le poète à un choix perpétuel, parfois douloureux, qui le convie à une âpre discussion de ses propres idées et de leur mise en ordre, qui le décourage souvent, le désespère parfois, mais peut aussi, plus rarement, l'inonder de fierté. L'inspiration de Dieu impose plus qu'on ne le croit ordinairement, un travail difficile et laborieux. Les cahiers de Beethoven sont là pour en témoigner. L'idée subite, pour sa part, ne demande aucun travail, aucune sueur ne vous perle au front, aucune inquiétude ne vient vous troubler. L'idée subite est toujours gagnante et n'autorise aucune critique, aucun démenti. La notion d'idée subite, qui ne doit rien à la raison, mais tout à l'éclair soudain, à la suggestion immédiate, éveille en nous d'innombrables exemples empruntés aux plus grandes œuvres de la musique. Chez Mozart, Schubert, Schumann, Beethoven, Chopin, Wagner, Brahms, Debussy, Berg et tant d'autres, le ciel de la musique est constellé de ces petites météorites lumineuses qui arrivent abruptement et sans prévenir, merveilleusement douces et tendres, pathétiques ou tragiques. Parfois, elles sont d'une simplicité confondante, comme chez Schubert. Nous en avons voulu donner un exemple d'autant plus convaincant que, pour ainsi dire, il n'existe pas, sinon dans notre imagination hésitante. On peut parler en l'occurrence d'une énigme musicale qui restera sans doute toujours sans réponse. Celle-ci se trouve évoquée dans un fragment d'un amour de Swann dans La recherche du temps perdu. Il s'agit bien sûr de la sonate de Vinteuil pour piano et violon, dont Swann ne retient de toute l'œuvre qu'un très court fragment, 2 mesures à peine, la fameuse petite phrase. Nombreux sont ceux qui se sont ingéniés à en découvrir l'auteur présumé. On l'a attribué à Saint-Saëns, à Reynaldo Hahn, à César Franck, à Gabriel Fauré, à Guillaume Lequeux et à quelques autres. Personne ne sait à qui Marcel Proust a bien pu penser, mais peut-être celui-ci n'a-t-il pensé à personne. Avec notre manie de vouloir toujours tout expliquer, et d'après la description si minutieuse qu'en donne Proust, il n'est pas aventureux d'imaginer qu'il puisse s'agir de la quatrième et de la cinquième mesure du mouvement lent de la sonate de Guillaume Le Queux. Mais cela n'a que valeur d'hypothèse, pas plus. Cette petite phrase, mal définie ainsi car elle n'est qu'un court fragment de phrase, apparaît 8 fois dans le mouvement. Elle est plus ou moins variée dans sa formulation, mais reste toujours sensiblement identique à elle-même. On pense irrésistiblement au premier vers du tombeau d'Edgar Poe, de Mallarmé, accordant au visage le pouvoir de se modifier au fil des ans, tout en restant éternellement lui-même, fidèle pour l'essentiel à l'image originelle. Envoûtante, captivante, la petite phrase est indissolublement associée à l'amour qui lie naguère Odette de Crécy à Swann. La petite phrase qui était comme l'hymne national de leur amour, écrit Proust. Swann, note Proust, tenait les motifs musicaux pour de véritables idées, idées d'un autre monde, d'un autre ordre, idées voilées de ténèbres inconnues, impénétrables à l'intelligence. Quand il se faisait jouer la petite phrase, il avait cherché à démêler comment, à la façon d'un parfum, d'une caresse, elle le circonvenait, l'enveloppait. Il s'était rendu compte que c'était un faible écart entre les 5 notes qui la composaient et au rappel constant de 2 d'entre elles qu'était due cette impression de douleur rétractée et frileuse. Tous ses souvenirs du temps où Odette était éprise de lui s'étaient réveillés et étaient remontés pour lui chanter éperdument les refrains oubliés du bonheur. Ce fragment d'analyse proustienne nous offre un exemple assez convaincant de ce que pourrait être l'idée subite, susceptible de s'isoler de ce qui l'entoure, procurer une jouissance rare, une souffrance cuisante, un frisson sublime, et pouvant s'incruster dans la mémoire de façon indélébile. Proposons 3 autres exemples de ce que pourraient être des idées subites. Ainsi, dans la mélodie de Robert Schumann, Mondnacht, mesure 6 à 12, très courte, parmi les plus émouvantes, les plus tendres qui aient été jamais composées. 1000 écoutes ne parviendraient pas à en épuiser la fragilité et la suavité. Ainsi, dans la 12e étude pour piano, puis suite d'Alexandre Scriabine, les 2 premières mesures, un départ foudroyant, une charge de pathétisme qui laisse pressentir des fièvres dévastatrices. Ainsi, dans le concerto pour violon d'Alban Berg, mesures 220 et 221, un moment extatique, au-dessus du fragment du choral de Bach. C'en est assez, Seigneur. Utilisé pour le choral varié, qui constitue la dernière partie de l'œuvre, la ligne du violon qui s'appuie sur une merveilleuse harmonie se hisse dans des régions idéales, transcendantes, en une sorte de fusion réconciliatrice, les eaux anciennes de l'univers tonal se mêle à celle nouvelle du sérialisme. Avant d'achever cette communication, essayons brièvement de relier l'épilogue de la vie d'Adriaan Leverkühne aux origines du mythe faustien. Entre les années 1480 et 1540, vivait en Allemagne un sulfureux personnage à qui la rumeur publique attribuait des pouvoirs magiques. Ceux-ci ne pouvaient avoir été obtenus dans la conviction populaire que grâce à un pacte signé avec le malin. Ce personnage, un certain Georg ou Johann Faustus, aurait eu ainsi la possibilité d'exercer sa volonté de puissance, de réaliser ses rêves de grandeur, d'obtenir les jouissances permises ou défendues, d'assouvir ses ambitions. Le pacte qu'il signa en bornait la durée à 24 années, à l'issue desquelles le paiement devait intervenir. 4 siècles plus tard, l'accord conclu entre Leverkühne et son incommode et surtout impitoyable partenaire dura le même temps, mais la nature du pacte était d'une autre qualité. Il s'agissait, nous l'avons déjà vu, de l'obtention de l'extrême puissance créatrice de la perfection artistique. Pas seulement celle que dispense le talent, pas seulement celle que donne le génie au sens classique du terme et qui est le témoignage de l'intervention divine. Mieux que cela, l'éclat incomparable de l'illumination, le sentiment de vivre la réalité de la transe sacrée qu'Adriane sentait ne pouvoir atteindre sans une assistance diabolique. Le génie absolu, la concentration, la condensation, l'essence du génie, quelque chose qui se situe au-delà des limites humaines. Attends un an, disait Satan, 6 ans, 12 ans, attends que l'illumination démoniaque, le refoulement de tous les scrupules et des doutes paralysants atteignent au paroxysme. Tu sauras alors pourquoi tu nous as légué ton corps et ton âme. Les dernières années d'Adriane sont celles au cours desquelles il commence à s'acquitter de sa dette. D'abord par la solitude, puis la maladie, la démence, la tentative de noyade, la mort et l'indicible conclusion. Quand Adriane Leverkühn disparaît en 1940, la destruction de l'Europe est déjà fortement engagée sur des fonds d'enfer, d'orage, de tempête, d'incendie, de meurtre. Se profilent des phases de tourmenteurs sadiques qui semblent surgir des tableaux de Jérôme Bosch. À cette époque d'août 40, écrit Thomas Mann, l'Allemagne, les joues brûlantes de fièvre, titubait à l'apogée de ses sauvages triomphes, sur le point de conquérir le monde grâce à un pacte qu'elle avait signé de son sang. Ce pacte, lui aussi, avait duré 24 ans, depuis les années 1920 et 21, où le fondateur de l'idéologie nazie était devenu chef de bande. Mutatis mutandis, le parallèle peut-il être évoqué entre le dictateur suant le sang et le musicien à l'ambition démesurée, mais pacifique, harmonieuse, d'ordre spirituel et artistique. Il est poignant de penser que leur destinée se soit rejointe à l'heure ultime, pour une simple mais impardonnable raison. Ils avaient voulu, cyniquement pour l'un, imprudemment pour l'autre, franchir les limites de ce qui est permis aux hommes.
Soyez remercié, cher monsieur Nigg, d'avoir réservé à vos confrères et à vos invités la primeur de cette très belle communication, de ce très beau travail. Nos compositeurs vont nous dire sûrement, vont dire mieux que moi, l'intérêt de ce travail, mais il me semble que vous avez réalisé là une véritable étude importante dans l'histoire de la musique contemporaine. Et pour ma part, j'ai été époustouflé par cet engagement de Thomas Mann dans le domaine de la composition musicale qui sont peu le fait des romanciers.
C'est une chose qui m'a prodigieusement intéressé qu'un écrivain, parce qu'en en général, les écrivains ne sont pas des gens qui connaissent tellement bien les affaires de la musique, notamment en France. Ils sont un peu plus calés en Allemagne et dans les pays d'Europe centrale, par exemple les Tchèques ou des gens comme ça. Ils connaissent beaucoup plus les choses de la musique. Mais en France, tout le monde sait que il y a une sorte d'allergie. Et alors, constater qu'un écrivain ait pu être capable d'approfondir vraiment de grands problèmes de la musique, je n'en ai donné ici qu'un pâle aspect, parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des quantités de remarques, de choses, d'analyses qui sont parfaitement prodigieuses. Alors moi, j'ai été passionné par ce livre. Je l'ai lu il y a très longtemps, je n'ai rien compris, je l'ai laissé tomber. Et puis, récemment, depuis 3 ans, je ne sais pas pourquoi, j'ai accroché et j'en ai été parfaitement possédé. Mais complètement possédé. Alors, c'est comme ça. J'ai eu envie de faire ce travail qui m'a mis dans une espèce de bulle extraordinaire de la véritable musique, au sens le plus élevé du terme.
Bravo, c'est le propre de nombreux lecteurs de réagir à la seconde lecture, de s'approprier un texte. Bravo. Monsieur Prodromides, monsieur Mach.
Vous savez, je ne voulais pas tellement intervenir. Non, mais je voudrais d'abord remercier Serge de sa communication et de son exposé si clair d'un grand roman dont il faut bien dire, d'ailleurs, tu l'avais dit, qu'il est extrêmement touffu et parfois indigeste. Il faut dire que traduire l'allemand, c'est presque, surtout du Thomas Mann, c'est presque mission impossible. Je veux dire qu'il est touffu un peu à la manière du contrepoint qui est évoqué. Je pense à celui de Hans Pfitzner, compositeur exactement de la même époque, dont le contrepoint était un peu à l'image de l'écriture de Thomas Mann. Mais je ne voudrais pas entrer dans des considérations de technique musicale qui risquent de survoler un peu l'assistance. Je voudrais retenir dans ce qu'a dit Serge Nigg, dont je crois que d'ailleurs il le dit à son propre compte, hein, ça n'est pas les Verkun qui dit ça, une phrase importante. En art, la simplification est souvent synonyme d'enrichissement. Ça, je crois que c'est très important et très important actuellement, mais simplification ne veut pas dire rétrogradation, retour au passé ou néo quelque chose. Néo-tonal, c'est très à la mode actuellement. Simplification, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire dans l'énorme forêt des sons en liberté qui existe depuis presque un siècle, trouver un langage qui les ordonne. C'est ça, pour moi, ce que veut dire simplification. Alors ça, je crois que c'est une notion extrêmement simple que tout le monde peut comprendre. Et je pense qu'effectivement, c'est un enrichissement. Il y a des correspondances dans le passé. Elles ont d'ailleurs été citées tout à l'heure. Monteverdi, c'est une simplification, oui, enrichissante par rapport à la complexité du langage polyphonique précédent. C'est effectivement une simplification et un bond en avant. Voilà, c'est un grand ancêtre auquel je crois qu'il faudrait se référer aujourd'hui, parce que nous avons besoin un petit peu d'une démarche du même ordre. Voilà ce que je voulais dire.
Je voudrais citer une chose que toi-même tu as citée au cours d'une discussion qui a suivi un exposé, ici même, à propos de ce qu'était un vrai professeur, un vrai maître. Il s'agissait de l'école des Beaux-Arts, je crois, du conservatoire. Tu as dit, Gustave Moreau était, comme chacun sait, professeur à l'école des Beaux-Arts. Ce n'était pas n'importe qui. C'est rare qu'on ait eu un professeur de telle qualité aux Beaux-Arts. Et il avait un élève. Et un jour, il a dit à cet élève, « Vous, vous allez simplifier la peinture. Vous allez simplifier la peinture. » Il s'agissait, bien sûr, de Henri Matisse. Et ça, c'est une phrase que j'ai retenue et que tu as prononcée ici.
C'est un très grand maître.
Je m'étonne, c'est moi qui te rappelle.
Ouais, je m'en souviens très bien, parce que je l'ai souvent cité. C'est une phrase d'un très grand maître qui fait une peinture extrêmement différente de celle qui pressent chez son disciple et qui sent que ce disciple, cet élève qui va devenir Henri Matisse, va apporter quelque chose de tout à fait contraire à ce qu'il fait, mais de nouveau, il va faire un bond. Je trouve que c'est d'un très grand maître, d'un très grand pédagogue, je veux dire, de dire ça.
Oui, monsieur Mach et puis monsieur Jacques Tabé.
Oui, je m'associe aux compliments faits sur la qualité et la hauteur de vue de cette communication. Et je voudrais, évoquer deux points. D'une part, me dissocier complètement de cette approche germanique de la musique de notes, qui considère que la musique est faite de notes, car... À la même époque, il y avait déjà eu la leçon de Debussy et celle de Varèse, qui justement montraient qu'une autre approche de la musique était possible, non pas à partir du contrepoint ni de l'harmonie, mais à partir de catégories tout à fait différentes et nouvelles. Et donc, je suis toujours tenté de voir comme dans les écrits d'Adorno, une polémique tout à fait désuète, mais... ça, c'est un aspect un petit peu négatif pour, de mes remarques. Et une chose qui m'a beaucoup ému et que je voudrais évoquer, bien qu'il s'agisse d'une interrogation ad hominem. Serge Nigue est quelqu'un qui existe dans l'histoire de la musique pour avoir fait un passage radical d'une adhésion à ce dodécaphonisme vers une volonté de rupture et de simplification. Et je crois qu'il a payé assez cher dans sa vie la radicalité de ce tournant. Alors, ce que j'entends dans cette communication, c'est peut-être une réconciliation avec ce avec cette tendance de jeunesse, parce que l'époque à laquelle tu as rejeté le dodécaphonisme avec violence et publiquement, maintenant a fait l'objet peut-être d'une réévaluation et fait place à une certaine nostalgie, c'est ce qui m'a semblé entendre.
Je voudrais te répondre parce que tu as soulevé un problème très très important, très sérieux. J'ai rejeté tôt, en effet, le dodécaphonisme pour des raisons particulières, mais j'y suis revenu après dans des conditions tout à fait différentes. Tu sais, je cite ici la fin du concerto de Berg, et quand, je ne sais pas si tu as remarqué, je cite ce passage que je trouve admirable, dans lequel au-dessus du choral de Bach, il y a une ligne qui est tout à fait indépendante, d'essence dodécaphonique, et je parle de fusion réconciliatrice qui mêlant les eaux anciennes de l'univers tonal à celles nouvelles du sérialisme. J'ai toujours pensé qu'il pouvait y avoir une réconciliation, contrairement à ce que disaient les Bovis et toutes les personnes de son entourage, mais j'ai toujours pensé que l'avenir devait être dans ce domaine quelque chose qui réconcilie des choses contradictoires, mais qui peuvent s'enrichir mutuellement, considérablement. C'est drôle de voir dans ce passage que j'ai cité du choral de Bach avec le motif de violon par-dessus, on entend dedans des données tonales, c'est-à-dire qu'on entend des retards, on entend des appoggiatures, on entend toutes ces choses qui ont donné sa grandeur à la musique de la tonalité. Mais, dirais-je, on a le droit aussi, dans la sphère dodécaphonique, de retrouver des valeurs qui existaient dans l'autre technique.
Berg ne s'en est pas privé.
Oui, oui, bien sûr, mais c'est tout à son honneur. Dans le passage que je cite, c'est une chose absolument merveilleuse, musicalement parlant. Et ce n'est pas le seul endroit, il y en a des tas dedans.
Jacques Tadei.
Serge, bon, bien, nous avons tous apprécié, bien sûr, cette remarquable communication. Bon, nous connaissons tous, enfin, ceux qui sont des amis à l'Académie, ton souci d'exigence et la richesse de ta personnalité que tu caches souvent volontiers. Parce que il y a beaucoup plus, je crois, beaucoup plus d'amour que d'exigence dans ta personnalité. Et peut-être que tu arrives à un moment, peut-être, où effectivement cette exigence et cet amour se réconcilient. Moi, je voudrais te poser deux questions qui ne sont pas nécessairement liées à la musique. Tu as beaucoup parlé d'expiation, de refus de plaisir, de la contrition, de pénitence. Est-ce que tu penses que le plaisir appelle une pénitence et que dans la musique de plaisir, il y a nécessairement une pénitence ?
Le problème de l'hédonisme.
Voilà. Non. Je te pose une question, tu y réponds. Et la deuxième question que je te pose, c'est dans l'idée de l'inspiration. Je dirais cette phrase de Valéry. Il dit « Le premier vers nous est donné par les dieux, à nous de trouver le second. » Quel est ton sentiment là-dessus ?
Le premier
vers nous est donné par les dieux, à nous de trouver le second. Voilà.
Ce qui prouve que quand Dieu nous insuffle son inspiration, ça ne nous suffit pas. Nous devons travailler.
C'est ce que j'attendais que tu dises.
L'idée subite, on n'a rien besoin de faire, c'est vraiment le jet formidable, en un très peu de temps, de quelque chose d'extraordinaire. Mais ça se trouve partout, ça. Partout. Bien, mais l'inspiration divine, c'est le travail, je l'ai dit. Ça demande du travail. Bach travaille, Mozart travaille. Contrairement à ce qu'on peut penser, il travaille.
Alors, tout le monde. Le plaisir et la douleur.
Alors, le plaisir et la maintenant. Douleur. La notion du plaisir en musique, c'est un vieux, vieux problème. La tradition française a toujours joué en faveur du plaisir, de l'écoute de la musique. Elle s'est parcourue d'un fil rouge depuis les clavecinistes. C'est tout à fait spécial. Alors, ça atteint un degré formidable, bien sûr. Ce souci de beauté sonore, de plaisir sensuel, ça, c'est dans Debussy, c'est dans Ravel, c'est dans tous les gens de cette époque-là. Ça, je l'ai dit encore, ça.
Le plaisir de l'harmonie.
Bien sûr, surtout. Et la marche des voix n'a jamais beaucoup intéressé les Français. Ça, c'est l'affaire des Allemands. Alors, les Allemands se moquent totalement de la beauté d'un accord. Quoique, quand on voit Tristan, on ne pense pas qu'il se fiche de la beauté des accords, parce que les accords sont superbes, y compris Parsifal, bien sûr. Mais en général, on a cité Pfitzner tout à l'heure, je ne sais plus. C'est toi qui as cité Pfitzner ? Qu'est-ce qu'a cité Pfitzner ? C'est toi, oui.
Favorablement, d'ailleurs.
C'est un peu la caricature des débordements du style allemand dans les choses les plus ennuyeuses qui soient. Moi, je ne suis pas du tout pour la musique ennuyeuse. Je suis pour la musique pas sévère, ni lâchée. Je suis pour le contrôle du style, mais dans un but de plaisir sensuel. Ce n'est pas de l'hédonisme. L'hédonisme lâche tout. Dans Debussy, la forme est formidablement construite, contrairement à ce
tu
que...
Tu veux de la rigueur dans le plaisir, en fait.
Hein, mais oui. Mais
d'accord.
Claude Abeille a une question.
Oui.
Oui, non, c'est simplement pour revenir sur la phrase de concernant Matisse. Je voulais simplement, il ne faut pas trop utiliser cette phrase parce que on a l'impression que Matisse a simplifié la peinture, mais il faut bien considérer que il n'y a rien de plus difficile, de plus compliqué que d'être simple. Hein. Alors ça, quand il a dit ça à Matisse, c'était peut-être pour souligner l'acharnement au travail et aux difficultés qu'il avait. Matisse, son élève, a justement arrivé à la simplicité.
Tu sais, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai connu au conservatoire des élèves qui étaient des cracks formidables. Il y en avait un qui pouvait faire des fugues à l'écrevisse, des fugues par mouvement contraire, toutes les choses que Bach arrivait à faire, mais c'était pas loin de Bach ce qu'il faisait. C'était des choses de virtuosité fabuleuse. Il n'y avait rien de moins musicien que lui. Mais il était capable de faire des choses folles dans le domaine de la complication contrapuntique. Voilà. Alors ça, c'est toujours facile quand on a le métier, c'est toujours facile de faire des contrepoints renversables, des fugues à l'écrevisse. Tout le monde peut faire ça. Enfin, tout le monde, relativement. Mais la simplicité en musique, c'est une autre. Écrire des pièces de piano, comme l'a fait Debussy, quelquefois d'une simplicité angélique, ça, c'est difficile. Schubert, c'est ça qui me paraît le plus extraordinaire. Je n'ai pas un immense amour pour Schubert. C'est récent chez moi. Je me suis dit, il n'y a rien là-dedans, et pourquoi est-ce admirable?
Joli comme formule.
Oui, mais ça, on ne peut pas répondre à cette question-là. C'est là que l'idée subite vient. C'est là qu'elle entre en jeu. On ne peut pas comprendre pourquoi tant de simplicité peut évoquer une telle beauté. Et ça vous rentre dans l'estomac. Hein. C'est extraordinaire. Des pièces de piano, par exemple. Je ne parlerai pas de l'inachevé que tout le monde connaît par cœur et qui est un peu insupportable, mais c'est un chef-d'œuvre admirable. Il y a dedans plusieurs idées subites qui sont d'une grandeur admirable. Et je crois que ça lui est venu facilement. C'est presque comme il a reçu ça, comme on reçoit une lettre de la poste. Il n'y a rien fait, il a mis ça ensemble, mais il n'a pas inventé ça, ça lui est venu d'ailleurs. Ceci dit, tout ça est assez vague, on peut discuter à perte de vue sur ces notions-là. Et je sens très bien que je peux être parfaitement contré sur des quantités d'idées que j'ai émises. Ça, je le sais, je les ai même prévues. Alors, oui.
Eh bien, cher Serge Henning, nous n'avons pas du tout la pensée de vous contrer.
Je voulais dire qu'on a, pour expliciter le mot de Gustave Moreau à Matisse, on a bien dit que simplification avait le sens d'enrichissement. C'est en ça que cette phrase a toute sa valeur.
Bien sûr. Tout à fait. Merci Serge Henning pour ce magnifique exposé.
Merci.
Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.
Vous venez d'entendre la communication de Serge Nigg de l'Académie des Beaux-Arts, venu s'exprimer sur Thomas Mann et le docteur Faustus, Le Diable et la Musique, le mercredi 26 avril 2006. Vous pouvez télécharger cette émission à partir de la médiathèque de Canal Académie sous la rubrique « En séance ».